Nous aussi, nous étions
dehors une fois que je suis sorti, mais il y avait quand même 200 personnes à peu près, entre ceux qui ont pu rentrer et ceux qui sont restés dehors. À Guéret, c'est un petit tribunal, il y a une cinquantaine de places dedans. Il y avait des banderoles qui disaient notamment un procès pour un cadenas, c'est une blague, qui disait de la ville Dieu en 1956 à Émoutier en 2014, nuisons à la connerie militaire, des choses comme ça. Donc il rappelait le chef d'inculpation, un des chefs d'inculpation qui est assez rare, qui était donc, comme tu l'as dit, entrave à la circulation du personnel militaire en vue de nuire à la défense nationale. Alors il y a eu une grosse mobilisation parce que une personne a été attaquée alors que c'est toute une action collective qui était en jeu, quoi, comme souvent devant la justice. Hein. C'était donc l'Assemblée populaire du plateau de Millevaches qui s'était réunie peu de temps après la mort de Rémi Fraisse, qui avait décidé de faire une petite manifestation à Émoutiers et donc de poser un cadenas sur le portail de la gendarmerie d'Émoutiers, petite commune de Haute-Vienne au pied du plateau de Millevaches.
À ce moment-là,
une manifestation bon enfant, on peut même appeler ça, puisque c'est pour ça que l'avait décrite la presse locale. Effectivement, pendant la manifestation, il y avait quelques gendarmes aux alentours qui étaient calmes, qui restaient à 100 mètres, 200 mètres, et qui n'ont pas du tout cherché à intervenir. Et donc, il y a quelque chose d'assez disproportionné à voir ce chef d'inculpation qui date des années 50, en fait, d'une loi contre des mouvements, d'une loi au moment de la guerre d'Indochine, avec cette idée de pénaliser ce qui est entrave à la circulation des militaires, de leur matériel, en vue de nuire à la défense nationale, mais au sens de mouvement de troupes, de mouvement de l'armée, quoi. D'ailleurs, l'avocate a relevé que l'avocat du prévenu, hein, que c'était certain, parlait d'une petite gendarmerie d'une petite ville qui avait des missions. Sécurité routière qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles visées dans la loi à propos de la défense nationale. Donc ça a dû un peu toucher parce que ni la juge ni le procureur pendant le procès n'ont vraiment eu l'air de se rendre compte de ce que c'était cette loi, ils n'en ont pas du tout parlé. Il faut quand même dire que dans la vidéo qui avait été faite par des participants de l'Assemblée pendant la manif et postée ensuite sur notamment rue 89 et qui avait circulé sur Internet, on voyait aussi des images du cadenassage qui avait été fait dans la nuit précédente où il y avait 5 gendarmeries du coin, ici, Plateau-Nil-Vache et aux alentours, qui avaient été cadenassés aussi. Donc en fait, il y a eu une réaction assez énorme de la gendarmerie à ce moment-là, localement en Limousin, qui ont fait une énorme enquête parce que ils se sont sentis visés en tant que corps. Déjà 2 semaines après la mort de Rémi Fraisse, ils n'étaient pas forcément tranquilles, on comprend. Et donc 5 gendarmeries cadenassées pendant une nuit, le lendemain ils voient 100 personnes manifester devant chez eux et cadenasser à nouveau. Et donc à partir de là, ils mettent des gros moyens, c'est ce que l'avocate a vu dans le dossier qui fait, je ne sais plus si c'est 300 ou 500 pages, pour en faire une grosse affaire, quoi. Ils ont trouvé personne finalement, à part une personne qu'ils identifient sur parce qu'ils faisaient des photos depuis la gendarmerie, évidemment, pendant qu'on était devant. Et une réquisition très légère en fait à côté de ce qu'on pouvait craindre. C'était quand même plutôt une bonne surprise ce jour-là. C'est quand même toujours agréable quand on est 200 personnes réunies et qu'on a l'impression que peut-être ça a quand même un peu pesé. Parce que le procureur, en tout cas, comme tu as dit, il pouvait appliquer une loi donc il avait une peine de prison, etc. Il a juste demandé 1 000 euros d'amende avec sursis. On était plusieurs à apprendre qu'on pouvait avoir une amende avec sursis. Donc juste 1 000 euros d'amende avec sursis pour entrave à la circulation du matériel militaire. Il a complètement abandonné un des trois chefs d'inculpation qui était organisation d'une manifestation non déclarée, en regardant les gendarmes pendant le procès en leur disant « Désolé, mais dans votre énorme enquête, il n'y a pas une ligne qui me permet de dire que monsieur a organisé la manifestation. » Et puis, il a carrément pas parlé du tout du troisième chef d'inculpation qui était refus de prélèvement ADN. Effectivement, il y avait de gros moyens des gendarmes en Limousin et qui aussi recopier-coller le dossier de Tarmac en reprenant. Dès le début, ils ont ouvert une enquête carrément pour terrorisme. Et dans leur dossier, il y a perspective insurrectionnelle, donc toute une recomposition de ce qu'est l'Assemblée populaire du plateau de Mille Vaches, qui a été au départ au moment du mouvement contre la loi sur les retraites en 2010, simplement de réunir à très informel d'habitants ici. Les gendarmes en font forcément une structure hiérarchisée, pyramidale, avec des idéologues et des exécutants et une organisation clandestine. Donc c'est assez caricatural, et c'est pas du tout ça, évidemment. L'Assemblée populaire du plateau de Mille Vaches
en fait, c'est juste la gendarmerie, c'est pas la clandestinité, mais la pyramidale, l'organisation pyramidale, les idéologues, un groupe armé, la gendarmerie, hein, quand même. Mais c'est pas mis le point de conflit, le salaire tombe tous les mois.
Voilà, bah oui, ils ont tendance à calquer toujours ce modèle. Ouais. Et donc, ça tombe carrément à plat. Ce qui est un peu, peut-être on peut dire un peu rassurant localement, c'est qu'on voit bien que. Enfin, sur cette affaire-là, ils n'ont pas été suivis par la machine judiciaire.
Ah ouais.
Donc, quand même, c'est-à-dire que le procureur s'est quand même pas mal désolidarisé de leur point de vue, du point de vue des gendarmes, avec ces réquisitions assez légères. Cela dit, Le délibéré sera rendu le 8 octobre et on sait que la juge peut toujours aller au-delà. Et donc, tant que le délibéré n'est pas rendu, on ne peut pas dire grand-chose. Difficile de décrire une ambiance. Personnellement, moi, je peux juste dire que là, ça a remis un peu de pression sur le plateau, c'est sûr. On a aussi une gendarmerie qui est plus présente, tout simplement, qui, comme si elle réagissait plus généralement, plus présente aussi sur les routes, sur les contrôles à des endroits où on la voyait pas souvent. Là depuis quelques mois. Donc il y a une pression supplémentaire qui est dans ce dossier et dans leur pratique tous les jours. Après, y a quand même une impression de soulagement parce que pendant les derniers mois, là, le dossier a été connu de l'avocate au mois de juin. Donc pendant cet été, c'était un petit peu un renouveau d'une grosse pression sur le territoire. Donc voir que il va probablement pas partir en prison pour ça et que ce sera peut-être probablement une amende légère, ça, c'est un petit soulagement quand même. Juste mon point de vue, parce que personne n'a créé la pression autrement. C'est à ce qui se passe outre Midi-Pyrénées aussi. Je vais terminer comme a terminé l'avocate du prévenu avec un peu de poésie. Elle a dit quand même à la fin à la juge que la montagne Limousine restera toujours libre et insoumise. Et on était assez content d'avoir une avocate comme ça.
On continue donc avec cette histoire-là. On va être en compte rendu. On va être en compte rendu. Et de même, à 14h au tribunal de la vie, on va rendez-vous le 26 février. Il est question plus ou moins d'accepter la date par les autorités. À prendre plus ou moins l'engagement. Et du coup, donc, on a des ministres de la FNSEA qui se plantent autour donc, de la zone du Kevin pour pousser des voilà. Pousser en fait les activités qui sont sur place et qui empêchent donc, la construction de ce barrage qui n'a toujours pas vu le jour et qui ne va pas le voir tout de suite. N'empêche que donc il va y avoir une zone un blocus par des forces là, de la FDF. Donc des situations de violence et donc à l'intérieur de la base une quarantaine, une cinquantaine de gens mais à l'intérieur hein, qui vont défendre dans leur carré absolument impossible. Donc mars, ce jour-là, dès lors, plutôt à partir de 11h, 800 gendarmes se mobilisent se déplacent sur le site, appuyés par un drone, par des hélicos. Ils ont donc les 40 derniers artistes qui accompagnent encore à ce bout à côté pour empêcher le barrage. Parmi les 40 derniers artistes, il y en a 20 qui vont être interpellés, garde à vue, sont relâchés, et 15 sont convoqués ultérieurement devant la justice, donc en fait ils sont convoqués demain à 14h. Donc pour des tels que violence, répression et pour avoir continué volontairement à participer à un groupement. Les commissions de dispersion. La vie va continuer en tout cas sur la table une fois que les gens vont être expulsés. Je vous rappelle rapidement, il y a eu quand même un arrêté pris à Gaillac à l'île de Sartarne. Tout ce qui restait d'affaires, de véhicules sur le site qui appartiennent aux zadistes ont été brûlés ou détruits. Et quant à la métairie, le quartier général des zadistes, eh bien, me filmer avec une incendie pendant la nuit et de près avec la parole de Thierry Carsonac, donc président du conseil départemental du Tarn, mais également de Marine Lerme, la mairesse de l'Île-sur-Tarn, et du préfet Thierry Gentilhomme, qui se ronde à bricoler rapidement un petit dossier pour procéder à l'éradication complète, c'est-à-dire qu'on a arrêté la bactérie pour qu'il n'en reste mais strictement rien du tout. Également, puisque comme il y a le comité scientifique, et notamment Maître Pierre, hein, qui a quand même porté plainte durant tout l'été, il a porté plainte contre lui, mais également contre le préfet. Il a été plus comme Carsonac, Lerme et Thierry Gentilhomme. Pour le moment, déjà là, n'ont pas bougé, mais en tout cas, le comité scientifique ne lâchera pas l'affaire et va essayer de faire valoir que. Pour eux, c'est des périodes courtes, c'est-à-dire que l'État fait ce qu'il veut, à un moment donné, décide de séparer un endroit qui était trop risqué, peut-être un jour ou l'autre, d'être de nouveau exploité, notamment là, en l'occurrence, par la vie, et donc a préféré éradiquer le problème en passant purement et simplement, après peut-être avoir installé le bâtiment. Donc, demain, à 14h, la date des caisses passent. Donc, dès 10h, toujours dans le tunnel, un pique-nique va être déployé et le soir, il y aura une projection à l'avant-première de Jébut, dont je suis, de Yanis Yuntas, donc dans la ville d'Albi. Donc, le mieux, c'est de se rendre peut-être sur le site d'info Tranquille pour venir au courant. En tout cas, vous êtes énormément invité à venir partager votre repas dès demain midi devant le tunnel d'Albi pour venir ces 15. dédicace à tout ce que j'ai pu croiser sur les petites routes de campagne. Voilà, merci. Car il est un tel. Attends, tu. Tu as un camping,
ouais, bon, il y a des choses qu'on peut les garder pour après, c'est pas mal. Là, on a la bonne de septembre mensuelle. Et que des bons.
Moi, j'aime bien Eddie Mitchell, c'était le dernier, là.
Ouais, mais c'est la bonne.
Les rivières, l'hiver, c'est de chez vous.
Bien sûr. Donc, des fois, on se croirait chez Mermet avec le diplôme, là. De la forêt, voilà.
Bon, donc là, il y a un article que tu as écrit.
toi, tu avais peut-être envie de mettre du coup l'accent sur un truc un peu plus lointain. Il y a beaucoup d'expériences opérationnelles hexagonales, mais il y a aussi un long article sur, dans la route des
choses. Ouais, c'est ça, c'est Chiru qui nous a fait ça en Uruguay, parce qu'il est là-bas. Il allait voir un truc dont on avait entendu parler par le site Autogestion.
Ouais.
C'est des travailleurs qui ont repris des lignes de bus. Ils ont parcouru l'ensemble d'une compagnie. Ils ont quelques lignes de bus à Santo Domingo, à Sacramento. Moi, je trouve que c'est au sud de l'écho, je dirais peut-être mieux. Voilà.
Merci, Google Maps.
Ouais. Et ce qui est intéressant dans l'article que Chéru a fait, en plus, c'est qu'il y a une vraie critique du Frente Amplio qu'on ne trouve pas très souvent parce qu'on est parti un peu enthousiaste avec le PMOJICA, qui est un ancien Tupamaros, etc.
Peut-être et que, est... que tu expliques, même si le temps a commencé à compter, mais qu'est-ce que le Frente Amplio?
Alors, c'est le Front de Gauche qui a gagné les élections il y a déjà deux mandatures, je crois, à peu près, avec le PMOJICA, qui est un ancien Tupamaros. De toute façon, je suis Carico pour me rectifier à chaque fois que je
vais dire. Oui, mais c'est des... Donc, pour moi, c'est pas hyper
bon. C'est pas hyper bon, hein. Et pour ce qui est de leur bus autogéré, en tout cas, ils ont... Ce qui est rigolo chez eux, c'est que c'est... Apparemment, c'est un peu des staliniens. Et ils avaient pas assez d'argent quand on les a liquidés. Alors, ils avaient une entreprise qui s'appelait Rain, R-A-I-N. Et comme ils n'avaient pas trop de sous, ils ont appelé ça ABC parce qu'ils avaient juste, ils pouvaient juste utiliser les lettres. Ouais, ils avaient... Ils auraient pu s'appeler ABCD, faire tout l'alphabet, ils n'avaient pas assez d'argent, donc ils ont juste choisi trois lettres pour leur ligne. Et tout récemment, alors ils ont une ligne qui s'appelle Lénine, enfin ils ont des lignes comme ça, et là ils ont choisi une prochaine ligne qui va s'appeler 43, pour les 43 disparus d'Ayotzinapa. Donc en même temps, c'est chouette, c'est des gens qui tracent des lignes comme ça d'un bout du continent à l'autre, on sent que les luttes peuvent être reliées.
Et du coup,
pas toujours les reliques. Attends, je vais juste finir, pardon Nico, parce que par exemple, quand tu demandes à Marc d'Ambiance Bois s'il connaît les Fralib, ou si les Fralib connaissent Ambiance Bois, il n'y a pas les liaisons qui existent entre ces deux univers.
Ouais. Voilà. Il y a des trucs que vous avez retrouvés en Uruguay avec cette boîte autogérée de bus. Ce lien entre les...
En plus, l'Uruguay, enfin, puisqu'on est au Rio de la Plata, c'est vrai qu'il y a toutes les entreprises récupérées. Qui ont émergé dans les années 2000, mais c'est par centaines. Hein. Beaucoup ont fermé aussi, mais il y en a quand même beaucoup qui ont tenu, Arcane Graphica, des entreprises d'Assyrie, après la crise de 2000. Ouais. Ce n'est pas des entreprises qui se sont créées comme ça, c'est des gens qui ont été
liquidés. Plutôt dans la peine des récupérations, oui.
Ouais, comme les Fralib, ce qu'on a à Gemnos, qui au mois de juin-juillet viennent de lancer officiellement leur marque de thé d'infusion, et qui sont passés d'une usine dans la chaîne où il y avait une chaîne de 100 mètres avec les produits Lipton, ils sont passés à du thé bio, donc ça modifie complètement leur rapport avec la production de la marchandise. Hein.
Alors dans les vidéos, vous mettez l'accent justement sur les limites, parce que la vocation d'autogestion, ça ne suffit pas forcément à tourner les boîtes. Est-ce que le bilan est satisfaisant? Vous êtes content de ce que vous avez allé chercher dans les articles pour justement pas rester dans des trucs admiratifs ou d'invocation? Est-ce que par exemple, parce que dans cet article sur l'Uruguay, est-ce qu'il livre un peu ce que ça te plaît? Comment ils parlent aussi des limites de leur démarche, à quoi ils sont confrontés en fait?
Les limites, on les avait vues aussi dans un très bon livre d'André Ruggieri, qui est un sociologue argentin, qui est venu aux rencontres de Gemnos au début de l'année, qui étaient des rencontres en fait sur l'autogestion. Et ce que disait notamment une scopiste là, qui est venue aussi à Ambiance Bois, elle te fait dire qu'en fait, elle dit très simplement en fait que le passage quand tu as appris pendant 20 ans à travailler dans une usine et à apprendre à obéir, c'est très difficile de passer à commander sans obéir, de passer d'un état à l'autre. C'est pas si évident que ça. Quoi. Et elle l'a vécu dans une société, une SCOP maintenant, qui s'appelle Prairial à Lyon, c'est une SCOP de consommateurs, enfin, c'est différent. Mais qu'évidemment, c'est pas toujours facile. Alors, on avait vu ça aussi dans des entreprises en Argentine. Alors, tu parles pas de celle de l'Uruguay.
Oui, c'était pour tenir.
Ils ont eu un cas de vol, par exemple. Comment on règle un problème de vol de la marchandise ou vol de machine dans une entreprise où tout le monde est le propriétaire ou le patron, hein. Ça peut encore arriver. Ouais. Et comment, même par exemple, à Sraline, ils peuvent se retrouver dans des questions de pouvoir parce que. Parce qu'il y a des gens qui prennent un peu plus de place que d'autres, forcément, Enfin, et c'est dangereux, je crois qu'ils ont réussi à voir à fond la montagne, ils ont réussi ce pari de rester assez, je pense, assez ferme sur ses principes.
Ouais. Ouais, puisque le temps nous manque, on redit une émission d'une heure. Merci d'être venu dire deux mots là, de ces articles-là. Donc, on rappelle, c'est le mois de septembre, reprendre l'outil, repenser la machine avec quelqu'un qui bosse sur le toit de l'usine avec les clés. Les clés, on ne les a pas toujours, mais en tout cas, ça cause à réfléchir, ça agit. Merci Christophe. Et puis, bonne diffusion.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Radio Saint-Afrique. Il s'appelle l'Amasada, assemblée en occitan. C'est d'abord le nom d'un collectif informel réunissant des habitants du sud Aveyron, de la commune de Saint-Victor et Melvieux. Des habitants qui ont décidé, selon leur expression, de se réapproprier leur territoire. Contre qui ? Contre quoi ? Ici, ce sont des éoliennes, des projets de plus en plus nombreux, et un transformateur électrique visant à raccorder l'électricité produite par ces éoliennes au réseau international de transport d'électricité. Alors, ce collectif, l'Amasada, a décidé d'aller plus loin que la simple contestation juridique. Sur les terres concernées par le futur transformateur, qui appartiennent encore aujourd'hui à des agriculteurs du secteur, ils ont construit une cabane qui s'appelle elle aussi l'Amasada. Un lieu de rassemblement, d'échange et de réflexion autour du projet, mais qui pourrait aussi devenir, si jamais les travaux démarraient un jour, un lieu d'occupation. Un lieu illégal, car construit sans permis de construire, avec une procédure judiciaire actuellement en cours. C'est sur ce lieu que s'est déroulé les 28, 29 et 30 août dernier un grand rassemblement de nombreux mouvements contestant l'usage politique de l'énergie. Éolienne, ferme-usine, vision technique de l'économie, ils étaient là pour la fête du vent. Nous aussi, Radio Saint-Afrique, nous y étions, avec un studio radio délocalisé et alimenté en électricité par une éolienne artisanale érigée sur place pour l'occasion. Voici quelques-uns des acteurs et actrices de ce week-end, avec en premier lieu Victor et Marion, membres actifs du collectif de l'Amasada, qui nous expliquent les raisons de leur mobilisation.
À quoi va donc servir cette énergie ? N'a-t-on pas déjà de l'énergie aujourd'hui en Aveyron ? On est dans une situation de surproduction, on est dans une situation de surproduction également en France.
En électricité, hein, on parle.
En électricité. On pourrait retourner la question et dire, mais pourquoi avons-nous besoin de produire plus ? Pour quelle nécessité ? Pour quel besoin et pour quel mode de vie ?
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'augmenter les capacités électriques ?
Il y a un point assez clair, c'est que nous on dit qu'il ne faut pas rajouter du désastre au désastre déjà existant. Il y a déjà un véritable problème avec l'énergie nucléaire, on ne sait pas quoi faire des déchets, on a balancé de la radioactivité un peu partout dans la vallée du Rhône, dans tous les pays qui produisent du nucléaire. L'énergie éolienne ne vient pas remplacer cette énergie nucléaire-là, mais vient se surajouter. Et donc quand on voit l'effet qu'ont ces éoliennes sur le paysage alentour, sur notre territoire, on dit qu'on ne va pas rajouter un malheur à un autre.
Est-ce que vous aviez déjà cette vision-là avant même d'engager cette lutte ou c'est quelque chose que vous avez découvert ?
Bah en fait, au début, comme tout le monde, on ne connaissait pas bien le fonctionnement du marché électrique et du business des éoliennes. Ce qu'on voyait juste, c'est qu'il y en avait de plus en plus et que les riverains commençaient à se plaindre, notamment sur le Lévézou où il y en a plus de 80. Donc on a d'abord entendu ces plaintes-là qui ont commencé à s'élever de plus en plus. Ils ont fait un film, ils ont fait des brochures. Et là, ça nous a vraiment donné envie de se renseigner davantage. Outre l'aspect esthétique qui n'est pas forcément plaisant, il y a aussi tout ce business derrière, des promoteurs qui sont là pour gagner plus ou moins des crédits carbone et de l'argent, et qui sont en réalité tous liés à des industries pétrochimiques, à des industries minières, qui sont en fait des gros pollueurs, qui ont créé des sociétés écrans, qui ont des très jolis noms, qui prétendent être des sociétés régionales et familiales, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc en fait, ces gens-là viennent ici avec vraiment des velléités de colonisation. Ils nous traitent comme, comme peut-être autrefois les colons ont été traités en Afrique. Ils nous prennent pour des idiots, quoi. Mais en réalité, on a quand même maintenant bien compris comment marchait ce business. Et on a peur aussi de l'avenir, qui va démonter les machines. En tout cas, certainement pas eux. Ils vont laisser derrière eux une espèce de friche industrielle, puisque le but étant de transformer l'Aveyron en une zone industrielle.
Et ça, c'est un but que vous soupçonnez, ou c'est quelque chose qui est clairement dit que, oui, l'Aveyron va être une zone industrielle d'électricité par les énergies dites renouvelables?
Il y a deux centres majeurs de production d'énergie éolienne à base d'éoliennes industrielles en France. C'est en Champagne et en Aveyron. Et ça vient des schémas d'RTE qui a clairement fixé sur une carte de France deux endroits où là on va faire de l'éolienne onshore, c'est-à-dire terrestre, et où on va clafir la zone de mâts d'aérogénérateurs.
Clafir, farcir.
Remplir la zone de mâts d'aérogénérateurs. Et surtout, on va bénéficier des infrastructures comme celle du transformateur de Saint-Victor-et-Melvieu pour évacuer l'électricité. Sachant qu'on ne va pas faire un méga transformateur de 7 hectares à tous les coins de ligne THT, les endroits où il y aura ce transformateur-là vont naturellement, par la voie du fait qu'une infrastructure en entraîne une autre, attirer tous les projets d'éoliennes industrielles sur la région que nous habitons.
Très bien, je vous propose de faire une première petite pause très courte et écouter un petit peu ce qu'ont à dire les habitants, du moins c'est ce que certains pensent que les habitants ont à dire sur les projets d'éoliennes.
Une éolienne, une histoire.
Lilou, mais bon, on m'appelle Lila. J'ai 23 ans et je suis bénévole dans l'humanitaire. Est-ce que j'aime les éoliennes? Bah pourquoi? Il y a des gens qui sont contre. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, faut être réaliste. Ça va sauver les phoques, plus de chômage, plus de famine en Afrique. Ça va sauver la planète, en fait. Ben quoi? C'est pas ça qu'ils ont dit à la télé?
Ceci était un message du ministère du capitalisme vert et de la durabilité renouvelable.
Voilà, petit message réalisé par des camarades bénévoles de la radio qui resteront anonymes, mais qui se reconnaîtront. Avant d'aller sur le fond de l'éolien, je voudrais quand même revenir sur la Masada en elle-même. Là, on est dans la cabane, alimentée par une éolienne, mais pas tout à fait les mêmes que celles dont on parle ici. Une éolienne artisanale que vous avez construite ici. Vous pouvez juste expliquer comment ça s'est construit, cette éolienne là qui tourne juste à côté et qui permet d'enregistrer cette émission?
Bon, il y avait l'idée de faire un pied de nez, évidemment, parce que l'éolienne en soi est une énergie tout à fait défendable. Faire de l'électricité avec du vent, personne n'a rien contre. Et très souvent, les gens avec qui on débat et avec qui on dit qu'on est contre les éoliennes industrielles, nous disent « Ah, mais vous êtes contre tout ». Alors nous, on voulait montrer qu'on n'est pas contre tout et qu'au contraire, il y a certaines solutions, certaines pistes, certaines intuitions qui sont envisageables, comme cette petite éolienne artisanale qui permet de produire de l'électricité pour un rassemblement de 300 et quelques personnes.
Pourquoi avoir construit la Masada? Pourquoi c'est pas s'être contenté de manifestations, de tracts, de luttes locales? Pourquoi vous avoir décidé ça?
Alors on a un problème avec tous ces promoteurs, avec RTE. C'est que c'est des gens qui, tout en se flattant d'être dans la plus stricte légalité, mènent une politique permanente du fait accompli. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on construit des éoliennes et après on se plaint de ne pas avoir le réseau qu'il faut pour pouvoir l'évacuer. On construit des petits transformateurs intermédiaires et ensuite on nous dit « Ah ben maintenant que ces transformateurs sont là, il va bien falloir faire celui de Saint-Victor ». Toute une série de faits comme ça, qui était très très bien résumé par la phrase de Perrin, toujours lors de cette réunion, quand il était venu à la salle des fêtes à la mairie de Saint-Victor, où il avait dit « Moi, j'avance ». Et c'est exactement leur philosophie. C'est-à-dire, à chaque fois, on fait une étape de plus, on rajoute une infrastructure, et au final, devant le fait accompli, les gens courberont les chines. Et nous, on voulait briser cette dynamique-là en disant que, eux, peut-être, ils avancent, mais nous, on est là et on résistera pied à pied. Et cette présence, on voulait la marquer d'abord par un bâtiment, d'abord par quelque chose qui est le fruit de nos mains, qui est le fruit de notre intelligence commune, de notre passion commune. Et celle-ci s'est matérialisée dans la quintessence des savoir-faire bâtisseurs aveyronnais que constitue la Masada.
Sur le collectif de la Masada, qui fait partie de ce collectif? Vous êtes des zadistes, c'est ça?
Le collectif de la Masada, il est constitué par des personnes de Saint-Victor, par des propriétaires des terrains concernés, par des conseillers municipaux de la mairie de Saint-Victor, par des habitants de Saint-Afrique et du bassin saint-africain, et par des gens d'ailleurs. Et c'est cet ensemble-là cette masse bigarrée, on pourrait dire, qui s'est réunie de manière tout à fait horizontale et qui s'est posé les questions fondamentales de qu'est-ce qu'on peut faire et qui a pris des décisions, qui assume ses décisions et qui continuera à se battre pied à pied contre ce transformateur.
Vous avez aussi une stratégie politique un petit peu différente de ce qu'on a pu voir dans d'autres lieux de lutte contre des grands projets dits inutiles. C'est que vous avez un lien assez fort au territoire, aux gens du cru, comme on pourrait dire, et à la région. Peut-être, Marion, expliquez un peu votre stratégie d'action.
C'est pas vraiment une stratégie, parce qu'en fait, les gens du coin, c'est nous. On habite vraiment pas si loin. Il y a des gens, comme il vient de le dire, qui sont du village, qui sont dans le collectif de la Massade. Et puis la plupart des gens, en fait, vivent dans un rayon de 50 km. Donc c'est pas une stratégie, c'est juste une réalité. L'Aveyron, et en particulier le bassin Saint-Africain et le plateau de Saint-Victor, c'est notre territoire et c'est notre territoire qu'on défend ici, tout simplement.
Très bien, ben merci beaucoup Victor, Coste et Marion, donc membres du collectif de la Massada. C'est la fête du vent et qui dit fête dit aussi humour. Petite réalisation de nos camarades Antoine et Loïc pour le compte de Radio Saint-Afrique.
Bonjour.
Salut.
Vous avez une connerie à dire?
On a une éolienne qui tourne, une toute petite. Vous avez entendu le...
Eh bien, c'était ça. Comment ?
Quoi, il y a trop de vent.
Moi, vive le vent, vive le vent.
Que pensez-vous de la fête du vin ?
Rien.
Non, rien. Merci.
C'est tout ?
Au revoir.
Vous avez rien à dire ?
Un vent de révolte, un vent
furtif.
Un ventilateur.
Bonjour.
Non,
vous avez
va,
quelque
là,
chose
là.
À dire ?
Bande de branleurs d'Aveyronais, vous me faites chier !
On fait
c'est
comment
où, là,
pour mettre des vins ?
Je sais pas, moi, je demande à...
Mais tu te mets pas derrière.
J'emmerde avec ta radio.
Je devais l'emmener souper dans un gré d'eau. En attendant, je fais des vents, des paix, des boums. Mes poquilles sont celles-là pour la bégoum. Après on devait aller danser au boom boom. En attendant je fais des vents, des paix, des poumes. Saint-Tropez c'est rappé pour toi pauvre clown. Elle t'a pété dans la main cette fille-là badaboum. Attendant, tu fais des vents, des paix, des boums. Tiens, celui-là, t'es pas mal du tout, il a fait boum. Et celui-ci, il est parti comme une balle doum-doum. En l'attendant, tu fais des vents, des paix, des boums. Et celui-là, dis donc, Simone. Celui-ci, pardon, il a fait aussi chaud que le Cameroun. En attendant, tu fais des vents, des paix, des boums.
Serge Gainsbourg, le fait des vents, des paix, etc. Bah oui, hein, c'est la gaudriole sur Radio Sainte-Afrique. Nous sommes toujours dans le 12-12, en direct, ou presque direct, ce samedi 29 août à la Fête du Vent à Saint-Victor-et-Mellevieux. Nous sommes dans la cabane de la Massada et nous sommes avec Victor Vernet et Fleur Dauger. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, peut-être commencer avec Victor, qui est agriculteur, puisque tu exploites les terres sur lesquelles est construite la Massada, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Comment tu t'es retrouvé à exploiter des terres et avoir une construction illégale chez toi ?
Donc, ces terres-là étaient celles de mon arrière-grand-père, qui les a toujours travaillées. Elles sont désormais à ma grand-tante, qui en est la propriétaire. Et mon père est donc le fermier qui les exploite, et je travaille avec lui sur l'exploitation. Comment on s'est retrouvé avec une cabane illégale sur ces terres ? Tout simplement parce qu'un projet de transformateur est sur ces terres. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il y avait une association qui luttait depuis un bon moment, qui s'appelle Plateau Survolté, à Saint-Victor. Et donc nous, on a décidé, avec quelques personnes du sud Aveyron, de faire quelque chose de différent, de lutter d'une autre manière, mais toujours dans le même esprit. Et donc on a décidé de se réapproprier d'abord le lieu, avant toute chose, et donc de construire une petite cabane.
Dans laquelle nous sommes actuellement.
Dans laquelle nous sommes ce soir.
Quelle est la situation juridique de la Massada aujourd'hui, puisque je crois qu'il y a construction de fait, un peu limite de la légalité.
Bah, c'est plus que limite de la légalité, elle est illégale. Donc il y a une plainte du préfet sur cette cabane. Donc on a posé un permis après construction, il y a peu de temps. Ce permis a été refusé, on a su ça il y a quelques jours. Maintenant, l'étape suivante, c'est faire un recours gracieux d'abord. On va attendre la réponse de ce recours. Et si le recours gracieux n'est pas accepté, ce sera un recours juridique.
À la différence des ZAD, par contre, c'est un lieu où on ne vit pas en permanence, c'est un lieu de rassemblement.
C'est ce qu'on a voulu dès le départ, c'est que ce ne soit pas des habitations permanentes, quoi. Il n'y a personne qui habite ici tous les jours. C'est une réunion au moins une fois par semaine, donc en général c'est le samedi. Après il y a d'autres événements qui se greffent, que ce soit une petite fête ou comme aujourd'hui une grosse fête sur 3 jours. Voilà, c'était un peu... c'est ce qu'on s'est dit au départ, quoi. Pas recopier le modèle ZAD avec une occupation permanente, quoi, dans un premier temps.
Et toi, en tant qu'agriculteur, qu'est-ce qui t'a amené, et puis qu'est-ce que d'autres agriculteurs du coin vous ont amené à vous opposer à ce transformateur? Et donc dans le prolongement aussi, donc à ces implantations d'éoliennes.
Nous, on a décidé de se réapproprier notre futur et notre présent aussi. C'est-à-dire que des gens, on pense qu'ils vont décider pour nous de l'avenir de l'Aveyron, au niveau des paysages surtout, et de la production d'électricité. Nous, on a décidé d'affirmer notre position. C'est pas une poignée d'élus qui vont décider à notre place. On veut aussi montrer qu'on est là. Et vu qu'on est peu écoutés, on a décidé de frapper assez fort. Cette construction nous permet d'avoir une vue médiatique, on va dire, et donc de faire connaître cette affaire. Et c'était le but principal de la manœuvre, c'était que les Aveyronnais, les habitants de Saint-Victor et des alentours, et la population en général, se rendent compte de ce qui se passe ici. Voilà, donc aujourd'hui c'est la fête du vent. Le but, c'était de réunir beaucoup de monde ici. Et la prochaine étape, ça va être l'enquête d'utilité publique. Et ça, c'est vraiment un moment qui va être extrêmement décisif dans la suite du projet. Donc on a tout l'automne pour s'y préparer, car on attend cette enquête pour le début de l'année prochaine. Donc nous, à ce moment-là, on va organiser notre lutte. On a décidé de faire une manifestation une semaine à peu près avant l'enquête d'utilité publique, faire une grosse manifestation à Sainte-Afrique, ensuite d'essayer de faire une grosse mobilisation dans le village pour bloquer l'arrivée des enquêteurs. Voilà.
Ce sera donc ça, les prochaines étapes de la lutte de la Massada.
Voilà. Donc on fera un appel à ce moment-là, et on attendra du monde, quoi.
RTE veut un transformateur, RTE veut un transformateur, pour faire plaisir aux promoteurs, pour faire plaisir aux promoteurs, qui pondent l'éolien en cascade, de la Massade, de la Massade, qui pondent l'éolien en cascade. On est plus nombreux chaque jour, on est plus nombreux chaque jour, à rage et que ça clignote autour, à rage et que ça clignote autour, mais on a trouvé la parade, la la massade, la massade. Mais on a trouvé la parade. Sur la plaine, y'a un peu trop de vent. Sur la plaine, y'a un peu trop de vent. Des lignes TH, mais pourtant. Des lignes TH, mais pourtant. C'est sur cette terre qu'elle parade, la massade, la massade. C'est sur cette terre qu'elle parade. Dès qu'on arrive, que ça bouge un peu.
Dès qu'on arrive, que ça bouge un peu.
Les voilà dans leur camion bleu.
Les voilà dans leur camion bleu.
On y voit toutes les brigades, la massade, la massade. On y voit toutes les brigades. On cloue les pannes et les palettes.
Cloue les pannes et les palettes
pour qu'elle monte vite la cabanette.
Pour qu'elle monte vite la cabanette.
Qui de la lutte sera l'ambassade, la massade, la massade.
Qui de la lutte sera l'ambassade.
Y'a des pauvres types, y'a des salauds.
Y'a des pauvres types, y'a des salauds.
Qui lui ont cassé les carreaux.
Qui lui ont cassé les carreaux.
Mais elle restera pas en rade, la massade, la massade. Mais elle restera pas en rade.
Détruit, plus est-ce construit.
Plus tu détruis, plus est-ce construit.
Elle vit de joie et de rêve pardi.
Elle vit de joie et de rêve pardi.
Une vraie machine de guerre nomade, la massade, la massade. Une vraie machine de guerre nomade.
Bientôt s'en construiront partout.
Bientôt s'en construiront partout.
Contre les projets complètement fous.
Contre les projets complètement fous.
C'est la meilleure des barricades, la massade, la massade. C'est la meilleure des barricades.
Ce week-end, durant la fête du vent, il y a tout un tas de conférences, de tables rondes sur divers sujets. Et on a la chance de recevoir plusieurs des conférenciers et conférencières. Première d'entre elles, Fleur Dauger.
Bonjour.
Auteur et éthologue, c'est-à-dire...
Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux.
Et tu es intervenu aujourd'hui pour parler de l'impact des éoliennes industrielles sur les oiseaux. Pourquoi t'intéresser à ce sujet ?
Quand on soulève ce problème de l'impact des éoliennes sur les oiseaux, il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est que justement il y a des menaces bien plus graves que quelques oiseaux qui vont être découpés par quelques éoliennes. Et j'avais envie de faire comprendre aux gens qui étaient présents aujourd'hui que cette vision-là, elle est assez simpliste et naïve. Parce qu'au cours de leur vie, les espèces d'oiseaux vont faire face à différentes menaces et les éoliennes vont en faire partie, parce qu'elles vont faire partie d'une accumulation en fait, de ces menaces-là. Et la plus grande, en fait, les biologistes sont tous d'accord pour dire que le déclin des populations d'oiseaux aujourd'hui, il est principalement dû à la perte d'habitat. Donc la perte d'habitat, ça va être dû à l'agriculture intensive, à la déforestation, aux constructions humaines d'origine diverse. Et la construction des éoliennes, elle va s'inscrire dans tout ce panel de menaces qu'ils subissent déjà et qui va participer justement à la perte d'habitat qui, elle, est la menace la plus sérieuse.
Mais en quoi une éolienne empêche les oiseaux d'avoir un habitat ?
Ben, dès la construction, hein, parce que quand on va construire ce qu'on appelle un parc éolien, ça fait joli, ça fait penser à un parc naturel. En fait, c'est des centrales électriques hein, qu'on construit là. On va couler du béton, hein, des tonnes et des tonnes de béton pour chaque éolienne qui vont faire peut-être 150 ou pour les plus grandes qui sortent maintenant 200 mètres de haut. On va construire des routes pour arriver jusque-là, en tout cas des sentiers qui vont être aussi goudronnés, etc. Donc il y a des oiseaux qui vivaient là dans la nature avant, qui vont être confrontés à des constructions d'origine humaine, aussi à une grande fréquentation donc de la part des constructeurs, aussi plus tard à du tourisme industriel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux et qui vont venir voir ces éoliennes, notamment au moment où on les monte, et puis après pour voir, écouter le bruit qu'elles font, voir comment elles tournent, etc.
Mais est-ce que ça, c'est une menace plus grande que quand on détruit des terres agricoles, qu'on construit une cité dortoir ? Est-ce qu'il n'y a pas des constructions beaucoup plus dangereuses pour les oiseaux que les éoliennes ?
Justement, la question, c'était pas de se demander qu'est-ce qui est le pire. Hein, parce que des menaces, ils font face à des menaces de partout. À certains endroits, ça va être le braconnage. À d'autres, ça va être les espèces invasives. Et à d'autres, ça va être les éoliennes. Donc effectivement, si on construit une cité dortoir à un endroit où, par exemple, nicher tel ou tel rapace, on va éliminer ce rapace-là. Avec les éoliennes, on peut avoir le même type de problème. Et ce qu'il faut voir, justement, c'est qu'on insiste à une accumulation des menaces. On ne peut pas les prendre séparément les unes des autres. Parce que les oiseaux, eux, ils ne vont pas se dire « Ah ben tiens, je fais face à une menace très grave à cet endroit-là, donc je vais aller ailleurs. » Ils font face, justement, à cette accumulation-là. Et donc, bah, c'est un problème de plus.
Est-ce que tu as quelques chiffres éventuellement à nous donner ?
Pour ce qui est de l'impact des éoliennes, c'est d'ailleurs assez difficile d'avoir des chiffres fiables et précis, parce que souvent, les études d'impact qui sont commandées, elles sont commandées par les promoteurs. Donc, une fois qu'on a les chiffres, est-ce qu'on peut réellement leur faire confiance ? C'est une question que je pose. On estime que dans les couloirs migratoires, donc là où il y a un impact vraiment très important sur les oiseaux, on estime qu'une éolienne va faire à peu près 33 victimes par an. Donc ça, évidemment, il faut le mettre en regard. La quantité d'éoliennes qu'on a à tel endroit, la mortalité n'est pas la même selon les endroits où on les implante. Donc c'est très compliqué de donner des chiffres.
D'accord.
J'en ai certains pour les États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a environ 45 000 éoliennes. Et chaque année, 234 000 oiseaux qui meurent à cause de ça. Donc ceux qui ne sont pas morts à cause de plein d'autres causes.
La pollution, les voitures.
Voilà. Surtout que l'implantation aussi des éoliennes, ça va augmenter la pollution.
Comment ça ?
Quand on construit une éolienne, on va devoir utiliser du cuivre. Il faut aller dans les mines de cuivre pour chercher tout ça.
D'accord, mais pas forcément à l'endroit où est l'éolienne. La pollution délocalisée.
À l'endroit même, quand on coule une dalle de plusieurs tonnes de béton, ça va pas forcément créer de la pollution. Tous les camions qui vont passer vont aussi dégager des gaz à effet de serre, etc., etc.
Toi qui t'intéresses à la faune, la flore, je sais pas, on entend souvent que les écologistes sont favorables aux énergies renouvelables. C'est un discours assez entendu, hein, qu'on entend aussi, y compris de mouvements écologistes ici en Aveyron. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressé à cette question des éoliennes en tant qu'éthologue ?
Alors, je m'y suis intéressée en tant qu'éthologue et aussi en tant que citoyenne, parce que généralement, justement, ce qu'on peut entendre de la part soit de l'homme de la rue, parce que c'est ce qu'on lui rabat les oreilles avec ce genre de choses, ou même les organisations environnementales ou certains politiques, c'est que les énergies renouvelables et donc principalement l'énergie éolienne vont nous aider à nous sortir du nucléaire. Donc quand on s'intéresse à la faune et à la flore, effectivement, on se pose la question, est-ce que ça c'est vrai ? Et donc moi j'ai fait une recherche là-dessus et on se rend compte effectivement que c'est pas le cas. Puisqu'on prévoit, d'ici 2020, si toutes les éoliennes qu'on a prévues seront construites, d'arriver à 25 000 MW de production d'électricité. Et 25 000 MW, ça équivaut à la production d'un réacteur nucléaire. Et en France, on a 58 réacteurs nucléaires. Donc
oui,
jamais...
mais c'est déjà ça. Ça en fait déjà un de moins.
Oui, mais on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan et une goutte d'eau qui va avoir un impact précis sur certaines espèces.
Lesquelles, par exemple ?
Ben, y a par exemple un cas qui est assez flagrant en Norvège, sur l'île de Smøla, où on a construit un grand parc éolien. Et donc cet endroit est le principal, contient la plus grande population de pigargues à queue blanche. Donc c'est un aigle de mer. C'est un peu plus grand qu'un aigle royal, un peu plus petit qu'un vautour fauve, pour vous donner une idée. C'est aussi l'endroit où il y a la plus grande population de cet oiseau en Europe. Et on a pu voir directement l'impact de ces éoliennes sur la population. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 200-300 oiseaux à cet endroit-là. Et depuis 2005, il y a un tiers des adultes qui a succombé aux collisions avec les éoliennes.
Ah oui, donc là, ce n'est pas négligeable. C'est vraiment une population entière qui a été décimée.
Voilà. Les éoliennes ont aussi été implantées sur un site de nidification. Donc, il y avait au départ 16 couples qui nichaient là, qui élevaient leurs petits. Il y en a 9 qui ont quitté cet endroit-là. Et comme c'est des espèces qui se reproduisent peu, donc qui ont une longue espérance de vie, jusqu'à 30 ans, qui se reproduisent peu, peut-être un petit ou deux petits tous les 2 ans, quand il y a une cinquantaine d'oiseaux qui meurent, c'est la population qui est réellement en danger. Donc non seulement au niveau local, mais quand on se trouve dans un endroit où il y a une telle concentration, c'est carrément la population européenne ou mondiale qui est concernée.
Une éolienne, une histoire.
Joséphine, 62 ans, retraitée. Pourquoi j'aime les éoliennes ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Il se trouve que j'ai quelques cerisiers dans ma propriété. Et cette année, ma récolte de cerises a été grandiose. Depuis qu'il y a l'aérogénérateur à proximité, plus un seul oiseau à 10 km à la ronde. Toute cette racaille avicole a été exterminée. Plus besoin d'épouvantail.
Ceci était un message du ministère du capitalisme vert et de la durabilité renouvelable.
Vous êtes toujours à l'écoute du 12-12, édition spéciale en direct de Saint-Victor-et-Melvieux. La question de l'énergie touche à d'autres sujets, la question aussi des grands projets. Nous recevons maintenant autour de la table Fred qui va nous parler des compteurs Linky. Toi, pourquoi tu es ici et quel est ton rapport aux éoliennes ?
Mon rapport, moi je suis ancien développeur d'énergie renouvelable, donc voilà, j'ai installé des centrales photovoltaïques, du petit éolien, tout ça. Il y a la compagnie du vent qui veut nous faire, quand j'étais en formation, qui veut nous faire leur présentation, tout ça. Je les connais bien, voilà, moi aussi j'ai cru, mais voilà, moi au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'on empile. Jamais on y a une logique de substitution, c'est qu'une logique de croissance. Et du coup, moi j'y crois plus du tout. Enfin, je pense que les énergies renouvelables telles que c'est fait là, c'est tout juste bon à mettre à la poubelle. Et voilà quoi.
Donc les compteurs Linky, mais qu'est-ce que ça vient faire ici des compteurs électriques sur une fête du vent contre le transformateur de Saint-Victor ?
Les compteurs Linky, en fait, c'est une demande de la MASAD d'apporter une brochure qui présente d'abord les compteurs Linky dans le système de la société industrielle qui transfère toutes les activités humaines à des robots. En fait, ça transfère la relève des compteurs, c'est-à-dire d'eau, de gaz et de gaz de ville et d'électricité à des machines, en fait. Parce que le compteur, il ne fait plus que, il fait compte, c'est-à-dire qu'il compte ce que vous consommez. Mais là, il envoie sur le réseau, soit GSM, des ondes électromagnétiques de téléphone portable, soit le réseau électrique, votre index de consommation à un centre de données.
Alors, juste pour préciser, donc les compteurs Linky, en fait, c'est les compteurs électriques qu'on a les uns les autres chez nous, hein, pour notre électricité, avec EDF, principal fournisseur, généralement. Et c'est ces compteurs donc, qui sont changés actuellement pour un nouveau type de compteurs qui sont les compteurs Linky, c'est bien ça ?
Alors, Linky, c'est le nom commercial pour le compteur d'électricité. Le compteur communicant, en fait, ils sont tous des compteurs communicants. C'est-à-dire que la modification, c'est qu'ils envoient l'index de consommation au centre de gestion. Il n'y a plus besoin d'humain entre le compteur et puis le gestionnaire.
Mais c'est génial. On gagne du temps, on gagne de l'argent et ça va plus vite. On a les consommations en temps réel. Quel est le problème ?
Voilà, c'est ça. C'est le truc, c'est que si vous n'avez pas une connaissance, une compréhension de la société industrielle qui offre plus de liberté, qui offre des services effectivement au plus juste, mais qui en contrepartie pèse un poids social très fort en supprimant tous les emplois et tous les métiers qui existent et qui finalement il n'y a plus que des robots. Et bien, si vous n'avez pas ce truc-là derrière, déjà vous démarrez mal parce que le vendeur il vous vend ce truc et puis en fait vous vous faites berner parce que après il y a tout le reste c'est que des inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a la société Big Brother qui se met derrière. Le compteur, il permet de savoir si vous êtes chez vous. Il fait savoir de faire des profils de consommation, de vendre ces profils de consommation à des annonceurs, comme sur Google et Facebook. Ils vendent les profils, c'est gratuit, hein, mais ils vendent des profils, donc ils sont riches. Et les annonceurs, ils vous ciblent des annonces qui correspondent à ce que vous faites.
Concrètement, ça se traduirait comment, par exemple ?
Linky, c'est par exemple la possibilité pour un grand annonceur qui a un centre téléphonique en Chine, qui fait des annonces pour des appels de gaz de France ou du photovoltaïque ou je ne sais pas quoi, ou de nouvel aspirateur, et bien de savoir si vous êtes chez vous quand il va appeler. Et donc, il va acheter à ERDF l'information pour savoir si vous êtes chez vous.
Est-ce que ce n'est pas un fantasme ? C'est une dérive possible, mais actuellement, les Linky qui mettent en place, est-ce qu'on en est déjà là ou est-ce que c'est une possibilité ?
Ah non, c'est juste l'infrastructure qui permet de... voilà.
D'accord.
Hein, et donc, forcément, vous pouvez dire que moi, je fantasme. Hein, comme par exemple Google, vous pouvez dire qu'on fantasme quand il fait des profils et qu'il vend ses profils aux militaires et aux annonceurs. Hein. Vous pouvez fantasmer tant que vous voulez, si vous voulez.
Mais en général, quand un industriel a une possibilité de vendre une marchandise, une information sur un consommateur,
et puis,
il se prise.
Surtout que ERDF dit ça vous coûtera rien. Sauf qu'ils investissent 8 milliards d'euros, qu'ils empruntent à la banque, donc ça fait 9,5 milliards. Et ils vous disent que c'est gratuit, sauf qu'il faudra bien qu'ils les remboursent, les banques. Donc comment ils vont les rembourser? Eh bien c'est ça, en supprimant d'abord les emplois de la relève, mais ensuite ils vendraient, c'est un marché gigantesque quoi, c'est de vendre ces profils d'utilisateurs de l'électricité. Donc c'est comme ça qu'ils les rembourseraient.
Et est-ce qu'on en est là à la phase donc opérationnelle? C'est un projet ou est-ce que... Déjà, on en est à la mise en place des compteurs Linky. Et deuxième question, est-ce que c'est obligatoire?
Alors là, comme d'habitude, bon, y a une phase de test où EDF, ils ont recruté des gens pour les sélectionner. On savait à peu près qu'ils allaient dire « Ouais, il n'y a pas de problème, Linky, on est content, ça ne change rien à notre vie, tout ça ». Il y a très peu de gens qui ont refusé, on a eu des témoignages. Et puis là, maintenant, à l'été, là, il y a une loi qui est passée et qui rend obligatoire l'installation d'un compteur Linky partout. Comme d'habitude, il y a 15 députés à 1h du matin qui ont levé la main, quoi. C'est tranquille, tranquille, comme à la maison.
Et comment on peut faire pour résister à ça?
Donc du coup, c'est obligatoire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'article dans le code pénal qui dit... Si jamais vous refusez un compteur Linky, vous êtes passible de tant d'amendes et tant de trucs de prison, etc. On va vous sanctionner. Mais voilà, on va voir quand les premiers vont réagir. Par exemple, moi, à la maison, j'ai le compteur chez moi. Si le mec il se pointe, de toute façon, j'ai dit, tant que je serai vivant, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre un Linky chez moi. Et on va voir quelle sanction va tomber. On va découvrir là, l'État dans toute sa splendeur, comme quand il envoie les forces de l'ordre pour installer des éoliennes ou je sais pas moi, ou un transformateur.
Ou un barrage.
Avérons les petites éoliennes.
Aujourd'hui, nous partons dans le sud Aveyron à la rencontre de Bernadette et Henri.
Alors, Henri et Bernadette, bonjour. Pourquoi ce choix de passer vos vacances au pied des éoliennes?
Ah bah écoutez, c'est idéal, hein. On est sur une crête en pleine montagne. Et en plus, avec la nouvelle route goudronnée bien large, c'est idéal d'accès en voiture. Et puis, moi et ma femme, on aime beaucoup la nature. Hein.
Vous voyez, nous, on vient de la ville, alors on est très contents ici. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'oiseaux par terre. Alors c'est facile, on peut bien les voir facilement, on peut les regarder, ils bougent plus.
Mais comment ça, ils bougent plus, ils sont morts?
Oui, c'est ça, ils sont morts, oui.
Et le bruit là, des pales, ça vous dérange pas trop?
Ah bah pas du tout, au contraire, on habite près d'un aéroport, alors le bruit ambiant, on connaît bien. Hein. Et puis, le bruit des pales...
Ça nous détend, en fait. Ça nous détend, on est habitués, les enfants aussi. Ils ont besoin de ça pour s'endormir. C'est en continu, comme ça, tout le temps. C'est agréable, oui.
Et pour camper, c'est pas trop compliqué?
Ah non, c'est génial, on s'est installé sur la dalle en béton. Donc, on n'a pas de problème avec les cailloux, les insectes, les bouts de bois...
Et puis, ça fait propre, c'est net.
Et alors, les enfants, là, parce que j'entends votre bébé, là, ils s'amusent bien, ils s'ennuient pas trop?
Oh non, pour eux, c'est très bien. Il y a des choses à regarder, il y a ces machines qui bougent tout le temps, ils regardent toute la journée, un peu comme la télévision, c'est bien, comme à la maison. Puis le soir, ça clignote, ils aiment bien voir, les petites lumières.
Du coup, on les entend pas pleurer non plus.
Et alors, du coup, vous êtes un petit peu tombé amoureux de la région, en quelque sorte?
Bah oui, complètement, on songe même à acheter là, avec toutes les éoliennes, le prix de l'immobilier est en chute libre, donc c'est l'occasion rêvée pour investir dans...
Oh regarde là, un autre qui est tombé par terre.
Ah ouais, un faux con pèlerin, c'est super rare.
Oh waouh.
Eh bien, Henri et Bernadette, merci beaucoup et surtout, bonnes vacances en Aveyron.
Ouais, merci.
Avec plaisir.
On va rester sur cette même thématique de la société industrielle avec Christian Rouquayrol. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du 12-12 sur Radio Sainte-Afrique. Christian, vous êtes invité aujourd'hui pour parler de la ferme-usine des 1000 vaches. Quel est le rapport avec tout ce qui se passe ici à la fête du vent? Et les vaches ne font pas que... Enfin, si, elles font des vents, mais pas uniquement.
Elles font des vents, paraît-il. Si oui, enfin, on dit même plus ferme, il faut dire l'usine des 1000 vaches. En fait, c'est une ferme, une usine, justement, qui est prévue, tu l'as dit, en Picardie, dans la Somme, près d'Amiens, pour faire du lait, mais aussi pour faire du méthane. C'est-à-dire que c'est une usine dont le premier but, c'est de faire de l'énergie. Le lait étant un sous-produit. Donc c'est ce qui, nous, à la Confédération Paysanne, nous a interpellés. C'est pourquoi on a fait plusieurs actions, à la fois commando et à la fois d'occupation et de démontage. On a fait trois actions fortes comme ça qui, à chaque fois, sont passibles de sanctions administratives, enfin de judiciaires plutôt. Et pour mettre l'accent et les feux de l'actualité sur ce nouveau type d'agriculture en France, parce que pour l'instant, il y en a de aussi grosses avec des vaches, il n'y en a pas. Et surtout ce type d'agriculture où on devient en fait des énergéticiens, on devient des producteurs de gaz grâce aux effluents des bêtes. Et le lait étant un sous-produit qui donc est vendu sur le marché, il peut être vendu à perte, c'est pas grave puisque l'usine elle-même vit surtout sur le gaz qu'elle va vendre.
Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que les agriculteurs puissent trouver une source de financement via l'énergie ?
Eh bien non, pour nous non, parce que justement, si on prend le modèle allemand, on ne fait plus de l'agriculture et de l'alimentation, on fait de l'énergie, donc le reste étant un sous-produit, on ne va pas forcément faire des bons produits d'une part, et on va faire des produits qui seront beaucoup moins payés, et les paysans qui ne feront pas d'énergie, parce que tout le monde ne va pas faire de l'énergie, c'est eux qui vont en payer les pots cassés, donc c'est des projets qui sont excluants des autres paysans, et qui vont faire inonder le marché de lait à bas prix, ou de viande, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, qui va casser les prix sur les marchés et donc va encore provoquer des hémorragies de paysans dans les campagnes.
Vous êtes habitant du plateau du Larzac, pas très loin. Je sais qu'un peu plus loin de l'autre côté, vers Requista, il y a une ferme-usine qui existe.
Tout à fait.
Une usine d'engraissement d'agneaux, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est une usine d'engraissement d'agneaux qui, elle, ne fait pas d'énergie, en tout cas pas à ma connaissance et pas pour l'instant. Mais on engraisse plusieurs centaines de milliers d'agneaux tous les ans, les agneaux de Roquefort qui sont sevrés pour pouvoir traire des brebis, qui avant étaient engraissés dans des petites unités ou sur la ferme où ils étaient produits, donc faisaient un revenu complémentaire pour les paysans, sont maintenant en grande partie concentrés dans ce gros atelier qui est tenu par un maquignon qui s'appelle Grimal, enfin une famille de maquignons, d'acheteurs de bestiaux, et en association avec la RAGT, donc la RAGT Plateau Central, célèbre pour ses essais d'OGM en Aveyron, etc., qui donc, eux, vendront sans doute l'aliment pour faire engraisser ces agneaux. Donc il y a une concentration énorme d'agneaux sur ce coin-là, à Ruillac.
Ruillac-Saint-Cric, patron de Requista.
Patron de Requista, voilà.
Et quel est le problème, au fond, d'avoir, au lieu d'avoir plein de petites fermes côte à côte, ces petites fermes, ça fait une grande ferme usine, oui, parce qu'on a plus de moyens, on peut mieux contrôler, on peut mieux tracer la viande. Quel est le problème ?
Tracer la viande, je ne suis pas sûr. Mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est excluant des autres formes d'agriculture, c'est très néfaste pour le management du territoire, c'est-à-dire qu'on concentre les productions sur certains endroits, avec des productions qui sont en hors-sol forcément, parce qu'on ne peut pas avoir assez de surface pour toutes ces bêtes. On amène la nourriture à l'auge, et après on inonde ces endroits, les terres autour, de fumier et qui provoque quand même des dégâts environnementaux assez considérables. Donc ça c'est le premier. Donc le deuxième impact négatif, c'est sur les prix des denrées qui elles sont bradées à bas prix parce que, enfin dans le cas où on fait de l'énergie, on fait un sous-produit. Dans le cas de l'agneau, on baisse les prix parce qu'on fait des économies d'échelle. On embauche beaucoup moins de monde pour nourrir ces animaux parce qu'on a rationalisé, ce joli mot que j'adore, rationalisé la chaîne alimentaire pour ces animaux-là. Tout est automatisé, donc quelques ouvriers suffisent. Alors un endroit où il faudrait des dizaines de paysans sur des petites unités qui eux ont besoin d'avoir un complément de revenu par rapport à leur production principale. Donc ces agneaux apportaient ce complément de revenu. Et on est en train de supprimer, c'est pas encore supprimé pour tout le monde, mais on est en train de supprimer en concentrant la production dans quelques grosses unités ce complément de revenus.
D'où des actions de la Confédération Paysanne, notamment donc à la ferme usine des 1000 vaches dans la Somme, qui a occasionné d'ailleurs un procès pour dégradation. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé dans notre coin avec un démontage qui a été pris pour un plus qu'un démontage dans l'Aveyron avec le McDo de Millau. Donc là, vous allez être allé démonter la ferme usine et donc vous êtes là. Il y a eu un procès, notamment le porte-parole de la Confédération Paysanne était inculpé. Juste un petit mot peut-être là-dessus.
On était à chaque fois 3 ou 4 Aveyronnais présents à ces actions. On a fait 3 actions, dont la première était une action un peu commando pour saboter en démontant sans casser les engins du chantier qui était en train de construire ce bâtiment énorme. La deuxième, c'était une occupation du chantier lui-même. On l'a retardé d'une journée pour obtenir un rendez-vous au ministère pour s'expliquer avec le ministre. Et la troisième, ça a été une action d'une soixantaine de paysans, en plein jour, à 6 heures du matin, juste au moment où les ouvriers allaient arriver, sur la salle de traite énorme, où on traitait 50 vaches à la fois, de cette usine à lait, et on a démonté une partie du matériel. On a démonté, et comme pour le McDo de Millau, on a profité de notre expérience d'Aveyronnais pour dire « démontons, cassons pas ». On n'a pas cassé, on n'a rien arraché, on a démonté des pièces qui étaient vitales pour que ce retour l'acteur marche, et on les a ramenées au ministre. Et le ministre a refusé de cautionner ça en gardant les pièces qu'on lui a ramenées. On ne sait pas ce qu'il en a fait, parce qu'il était receleur, du coup. On ne sait pas ce qu'il en a fait, mais nous, on l'a laissé. Et Laurent Pinatel, qui avait été lui amener ses pièces là, à l'endroit où il était, porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, retourné à Amiens, parce qu'il y avait des gardés à vue. Il y avait 9 gardés à vue qui avaient été arrêtés sur le chantier le matin même. Il est allé retourner pour les soutenir devant la gendarmerie. Il s'est fait arrêter à la gare d'Amiens. Manu Militari, menotté, emmené comme un brigand, un voleur de bagnole ou n'importe qui, alors que c'est un syndicaliste, porte-parole d'une organisation syndicale nationale. Et à côté de ça, on voit la FNSEA qui, elle, fait des actions de saccage. Elle a brûlé le centre des impôts de Morlaix, la MSA de Morlaix, par exemple, il y a un an et demi. Les bonnets rouges qui ont brûlé des portiques écotaxes, etc. Ou les manifs FNSEA qui cassent du mobilier urbain ou déversent du lisier dans les bâtiments publics, faisant des centaines de milliers d'euros de dégâts, non, sont jamais poursuivis.
Ouais,
alors c'est assez étonnant comment fonctionne. Non pas la justice, parce que c'est pas elle qui choisit de poursuivre. C'est le ministère de l'Intérieur qui choisit de poursuivre. On est poursuivi systématiquement parce que je pense qu'on remet en question un système, et ça fait beaucoup plus mal que de demander de l'argent.
Du coup, c'est peut-être là, en fait, la raison de votre présence ici, c'est que vous mettez en cause un système. Donc, en gros, vous apprenez à la Masada comment on va démonter un transformateur électrique. C'est peut-être un peu plus dangereux, là, pour le coup.
Il va falloir couper le jeu avant, quand même. Non, je suis venu témoigner de ça aussi, parce qu'il me semble que le lien qu'on fait, c'est l'énergie, puisque l'usine des 1000 vaches, c'est une production d'énergie qui, soi-disant, est douce, c'est le méthane, alors qu'en fait, on a énormément concentré cette production, et la concentration me semble néfaste, de la même manière qu'on est en train d'énormément concentrer la production d'énergie du vent avec des éoliennes industrielles. Oui. Moi, je suis plutôt pro-éolien à l'origine, mais le problème d'ici, c'est que d'une part, on a concentré cette production sur peu de surface, on a encore des projets de centaines d'éoliennes, et d'autre part, ça ne profite qu'à des fonds de pension ou des gros industriels qui sont tous proches des industriels du nucléaire ou des énergies qui sont polluantes.
Une éolienne, une histoire.
Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans, je suis rentière et surtout survivaliste. Pourquoi j'aime les éoliennes ? Ben voilà, avec toutes les éoliennes qui poussent comme ça un peu partout, comme des champignons, j'ai pu brancher l'électricité dans mon abri anti-atomique. Et puis, grâce à toute cette énergie verte, je peux enfin jouer aux jeux vidéo en toute bonne conscience, en attendant la fin du monde, quoi.
Ceci était un message du ministère du Capitalisme Vert et de la Durabilité Renouvelable.
Vous êtes toujours à l'écoute du 12-12, édition spéciale Fête du Vent à Saint-Victor-et-Mélevieux. Nous sommes actuellement le samedi 29 août et nous sommes branchés sur une éolienne artisanale qui nous permet de construire et d'enregistrer cette émission. Et pour terminer, faire un petit point économie avec Jacques Fradin, économiste, bonjour.
Bonjour.
Et accompagné donc de Harold, qui a permis sa venue ici. Expliquez donc à Harold, quel est votre lien, vous, avec la Fête du Vent et avec la Masada ?
Oui, ben bonjour. Ben déjà, je suis habitant du sud d'Aveyron, j'habite près de Camarès. Et ça fait 2 ans, là, qu'on s'intéresse aux questions d'énergie. Et notamment, on a déjà fait une petite intervention ici à la Masada sur la transition énergétique. On avait justement essayé de défaire ce mythe qu'on nous rabâche tous les jours quand on allume la radio, quand on lit les journaux. Et du coup, en fait, petit à petit, en s'intéressant vraiment à cette question-là, qui de toute façon légitime beaucoup ce qui va se passer dans le futur ici sur la Massade, et de fil en aiguille, en faisant justement de plus en plus de recherches, on est tombé sur les travaux de Jacques Fradin, qui est un économiste atypique, plutôt même un anti-économiste, et qui a en fait fait beaucoup de textes sur cette idée que tout système technique est d'emblée un système aussi politique. Et que donc, en fait, ce qui nous préoccupe ici, eh bien, c'est de dire, voilà, ce n'est pas simplement un projet technique, c'est un projet politique, et on peut lier d'emblée énergie et économie.
Et justement, donc Jacques Fradin, vous êtes économiste, expliquez, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes dans une faculté.
J'étais, je suis en retraite maintenant, mon dernier poste, c'était à l'École normale supérieure à Lyon, donc effectivement j'étais économiste, mais bon, j'ai eu une formation de mathématicien d'abord, mais d'une époque très ancienne.
Et donc vous faisiez partie tout à fait du monde des économistes. Comment vous êtes arrivé à ces conclusions-là, entre ce lien de la technique, la politique, que tous les économistes ne se posent pas toujours?
Ben ça, c'est une question très très ancienne. En fait, c'est depuis que je fais de l'économie. Bon, étant mathématicien, mes études de mathématiques, etc., puis j'ai aiguillé vers l'économie, et je dirais par une sorte d'erreur. En fait, je ne savais pas ce que c'était que l'économie, je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à l'apprendre, et ça m'a semblé complètement bizarre. Et c'est à ce moment-là, dès ce moment-là, c'est-à-dire ça remonte vers les années 1965, que voilà, s'est posée la question, parce que les économistes eux-mêmes ne présentent jamais l'économie, peut-être au sens où les gens l'entendent, la monnaie, les machins comme ça, ou je ne sais pas trop quoi, ils la présentent toujours comme quelque chose de technique. Donc c'est ce que j'ai essayé de comprendre depuis toujours et voir un petit peu comment ça pouvait se développer. Et dans la mesure où nous sommes dans un monde dominé par l'économie, je veux dire où tous les raisonnements tournent autour de l'économie, cette façon technique devenait immédiatement une façon politique. Donc j'ai été amené à lier tout cela. Voilà, bon, ça c'est un long temps de querelles, de travail, etc.
D'accord.
Etc.
Et donc vous êtes aujourd'hui ici à Saint-Victor. Quelle est votre vision par rapport à ce projet de transformateur et les possibles implantations d'éoliennes dans le secteur?
Eh bien, je dirais la chose suivante, toujours dans la lignée de ce que je viens de dire, l'objectif, c'est un objectif économique. Bon, l'objectif économique, c'est, par exemple, je ne sais pas, l'un des problèmes de la France, c'est les exportations. On a une balance des paiements déficitaire. Bon, est-ce qu'on peut impliquer ou est-ce qu'on peut rajouter, je ne sais pas, ce système de production dans quelque chose d'économique qui est rapporter des devises ou diminuer le déficit de la balance des paiements. Ou en allant un petit peu plus loin, parce qu'on nous parle beaucoup de problèmes énergétiques et de problèmes d'indépendance énergétique, par exemple, toute la production nucléaire électrique est vue comme une production qui rend la France indépendante, etc. En particulier, bon, vous le savez, le développement des industries nucléaires, mis à part la bombe atomique, est quelque chose qui s'est fait au moment où le prix du pétrole a augmenté et où l'on voulait échapper en grande partie au pétrole, en tout cas pour produire l'électricité, etc. Donc là, il y a le côté indépendance énergétique. Et on peut imaginer que ce truc-là est encore, enfin ce truc-là, je veux dire les éoliennes, les transfos, etc., le système, est encore un complément à cette idée d'indépendance énergétique. Voilà. Donc on aurait le côté d'un côté purement faire des sous, hein, je veux dire bêtement, exportation, et de l'autre côté, indépendance énergétique.
Mais du coup, en quoi ça pose un problème d'aller dans cette optique-là, de créer quelque chose de rentable pour permettre cette activité de perdurer, de l'économie, et du coup, au passage, faire quelque chose de bon, puisqu'on crée de l'énergie, on alimente en électricité tout le monde. Quel est le problème ?
Oh bah le problème, il est extrêmement simple. Je veux dire, je vais prendre un vieux problème qui est tout à fait l'analogue. Supposons qu'on veuille transformer une région entière en une usine sidérurgique. On peut faire. Il suffit d'aller se promener du côté de Longuy, ou il suffit d'aller se promener dans le nord de la France, et on va voir le ravage que produit la planification économique, c'est-à-dire la conception en termes économiques de la transformation de tout le territoire, de toute la région, en un immense système. J'ai pris la sidérurgie parce que c'est un vieux système et qu'on connaît bien, je veux dire. On va avoir des mines, on va avoir des chemins de fer, on va avoir des usines qui vont émettre des fumées, enfin, etc., etc. C'est quelque chose de gigantesque, une usine sidérurgique avec tous ses tenants et aboutissants. C'est une région entière. Et je vous répète, allez vous promener dans la Lorraine, si vous voulez, pour voir ça. Eh bien, ici, on est en train de produire la Lorraine dans 50 ans. C'est-à-dire, une fois qu'on aura mis des éoliennes partout, une fois qu'on aura mis des installations électriques partout, ben on s'apercevra que ce truc-là, c'est plus rentable, dans 50 ans, c'est autre chose qui a été remplacé. Et qu'est-ce qu'on fera à partir de là? Voilà, sous ces trucs-là, vous restez, il y aura des friches industrielles, il y aura des cadavres industriels, enfin, vous mettez le mot que vous voulez, vous voyez. C'est une région qui est détruite, en fait, comme ça a été le cas de la Lorraine, en quelque sorte. Alors, bien entendu, si on est économiste, et je vais faire l'économiste, si on est économiste, on va raisonner en termes de puissance. Et effectivement, la Lorraine, c'était l'un des foyers de la puissance. Et si on raisonne ici en termes de puissance, ici, ça va être puissance énergétique, on peut raisonner en termes de puissance énergétique. Mais ça veut dire qu'on ne raisonne qu'en termes de puissance. Tous les autres termes de réflexion, qui sont les termes de puissance et les termes basiques de l'économie, si vous voulez, vont être éliminés. Tout est éliminé.
Mais en même temps, quand on va discuter avec les porteurs de ces projets, justement, ils nous disent... La politique, c'est un autre domaine. Quand je pose la question à M. Perrin, porteur du projet de transformateur à Saint-Victor, il me disait, oui, effectivement, on peut... Enfin, moi, je fais qu'appliquer, en fait, les décisions du gouvernement. Et on se retrouve face à des techniciens, en fait, que ce soit ici au transformateur ou pour beaucoup d'autres projets, des gens qui disent, non, mais techniquement, moi, je fais que mettre en place ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
Bien, toute la conférence que j'ai faite était consacrée à ça. C'est-à-dire, j'expliquais que les vrais politiques, ce sont les techniciens. Et que ceux qu'on appelle hommes politiques, les élus, etc., Brottes par exemple, etc., députés, etc.
Qui est un député socialiste pressenti pour être le futur directeur de réseau de transport électricité.
Voilà. Pour des raisons, du reste, parce qu'il va perdre son poste de député, qu'il faut le recaser pour éviter qu'il perde sa paye, etc. Non, mais ça, bon. Mais, mis à part le copinage, si vous voulez, ce Brottes en question, c'est pas lui le porteur du projet. Il n'est que la façade. Il n'est que l'intermédiaire. Hein. J'ai l'habitude d'appeler les hommes politiques des agents d'ambiance. Il est là pour faire de l'ambiance, pour que les gens acceptent, etc., etc. Bon, ils sont payés pour ça. Mais je veux dire, derrière, il y a tous les techniciens, les ingénieurs, EDF, enfin, je veux dire, tout ce que l'on veut, qui sont vraiment, eux, les concepteurs, ceux qui ont réfléchi sur le projet, et ça, c'est un truc politique. C'est une politique d'aménagement du territoire, c'est une politique d'organisation de la puissance, c'est une politique de définition de ce qu'est le souverain, de celui qui décide, de celui qui fait que tous les gens, obligatoirement, vont être ensemble, vont être tenus ensemble, là, par les lignes électriques, par le courant électrique qu'on leur envoie. Si vous voulez, pour donner un exemple, on me dit, par exemple, oui, mais ici, c'est local, il y a une production locale, elle devrait servir au local. Enfin, je veux dire, vous voyez, le truc bête et stupide. Pour quelqu'un de l'EDF ou etc., ou quelque chose comme ça, etc., ça va sembler complètement cinglé. Il va dire, mais vous vous rendez compte, d'un point de vue économique, c'est-à-dire d'un point de vue utilitariste, il y a 10 millions de Parisiens qui attendent cette électricité. Vous, vous êtes combien? Vous ne représentez rien. Voilà. Et bien entendu, celui qui va dire ça, il va dire, mais moi, je suis un pur technicien. Je me contente de transporter de l'électricité aux gens qui le demandent, c'est-à-dire les Parisiens ou n'importe quoi. Vous mettez ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces éclairages. Peut-être pour s'informer sur votre manière de concevoir l'économie et la technique, un site internet ou des publications où on peut se référer.
Oui, il y a un site internet que je vous recommande. C'est un journal en ligne, vous savez, un peu underground, etc. Enfin, je le dis comme ça, si vous voulez, qui s'appelle Lundi Matin. Donc, il y a lundi.am. Et là-dessus, j'ai fait toute une série de conférences sur l'économie, justement pour expliquer la finalité politique de l'économie, le poids politique de l'économie, enfin, etc. Voilà, hein, voilà. Donc, je vous y renvoie. Hein.
Et d'ailleurs aussi, on a fait une interview avec Jacques, là, il y a 2 jours. Et cette interview sera sur bog.fr. C'est aussi un petit journal qui est publié dans les Cévennes. Et là, on a créé un site internet, bog.fr.
Eh bien, merci à toutes et tous celles et ceux qui nous ont permis de faire cette émission. Merci à Antoine, Loïc, Jean. Merci à tous les bénévoles et salariés hein, de Radio Saint-Afrique qui nous ont permis de mettre ce studio en place. À tout le collectif de l'Ambassada qui nous a accueillis bien généreusement dans son Ambassada, nous l'a mise à disposition le temps d'une après-midi. On continuera bien sûr à suivre l'évolution de cette lutte à Saint-Victor, du grand marché électricité. On ira peut-être un peu enquêter plus loin que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. En attendant, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un prochain 12-12 à l'écoute de Radio Saint-Afrique. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur notre antenne.
On veut du green, 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 green. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver. On veut bronzer, on veut du green, 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 washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
Les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 washing. C'est nous les astres, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green